direct de Montréal, voici le cabaret des acolytes.
Le spectacle va bientôt commencer!
On ne peut pas faire de magie, on ne peut pas les inventer, ces personnes-là.
Ça alors, pour une surprise, c'est tout une surprise. Bonjour les tout-petits!
Accueillez votre animateur pour le cabaret des acolytes, Jean-François Gélinas.
Je vous souhaite la bienvenue à ce tout nouveau cabaret des acolytes. Le rideau s'ouvre sur la grande scène. On prit place autour de cette table. Les fameux acolytes. Bonsoir la gang!
Bonsoir!
Christine Gélinas.
Bonsoir!
Geneviève Proulx.
Salut!
Juan Blasco.
Allô, allô!
Et Janelle Touchette.
Bonsoir tout le monde!
Saviez-vous quoi la gang? Non. C'est notre 20e cabaret en confinement!
Yeah.
Oh my God!
Wow!
Est-ce que tu te souviens de notre premier cabaret en confinement?
C'est lequel?
Le printemps!
Le printemps! Ah oui, OK. Oh, on ira écouter
un an
ça.
Après.
Ben oui, un an après, c'est le printemps, c'est ça. tout de suite après l'écoute de notre dernier balado sur le binge-watching ou le visionnage en rafale, Alexis communique avec moi et me dit « GF, Alexis qui a 12 ans? 11 ans? 11 ans, hein, Christine? C'est notre Alexis, 11 ans. Alors, il me dit « GF, vous avez oublié de parler de la série de Lego, les Ninjago, avec Lloyd Garmadon? » Hein? On disait...
Ben oui, tu le dis bien.
On disait que lors de notre dernier balado, on disait que les enfants ne binge-watchaient pas. Ben, qu'est?
Hein? Tu te l'es fait dire.
On a oublié ça.
Ben oui, on a oublié. Alors, pour ceux qui sont nouveaux à ce cabaret, ben, un bref rappel de ce qu'est le cabaret. À chaque fois, on vous fait une célébration, un cabaret autour d'un seul thème. Et cette semaine, le thème, on ne se souvient pas trop qui l'a choisi, mais on était tous un peu d'accord. Et je me souviens, quand on a fini justement le printemps, le thème du printemps, Christine, il y a un an, Geneviève avait dit « Hey, on n'a même pas parlé de l'érable et de la cabane à sucre. »
C'est vrai.
Hein?
Ouais. Ben oui, c'est vrai. C'est tellement un beau produit, une richesse qu'on a ici au Canada, le sirop d'érable et tout ça. Hein?
Ouais, ben,
alors, c'est important.
Mais en quelques petits indices sur le thème de cette semaine, voici. Alors, je reviens vers vous dans quelques secondes, les acolytes, le temps de présenter aux auditeurs le thème de notre cabaret. Ce soir au cabaret, nous célébrons une cabane. 20 000 cabanes. Des cabanes qui, à leur tour, célèbrent l'or blond du Québec. Pour faire honneur à tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied à collecter et transformer cette sève d'érable, j'ai pensé vous citer un acériculteur du bas du fleuve, François-Charles Germain, de l'érablière La Canopée. De la première goutte de sève qui perle au détour de février jusqu'à la dernière, c'est une grande légende collective que l'érable sculpte dans l'imaginaire québécois. Véritable course contre la montre pour cristalliser cette manne prodigieusement brève, cette tradition perdure dans une imperturbable bonne humeur et une ambiance de partage. Rien n'exprime tant la résilience, le génie et la franche camaraderie qui caractérisent si bien notre peuple. C'est beau, hein?
C'est vraiment beau.
Wow, on a des acériculteurs qui ont une très belle verve. Alors, vous l'aurez deviné, ce soir, les acolytes vous font tout un cabaret autour de la cabane à sucre. Je me tourne vers vous, les acolytes. Christine, celle qui va tout au long de ce cabaret nous accompagner en musique. Christine, bonsoir.
Salut. J'en pense à ce que j'ai le droit de dire que je me suis sucré le bec avec la musique cette semaine.
Ah, c'est bon. Merci. Janelle, toi qui aimes les faits divers, est-ce que tu vas rester fidèle à ton habitude et nous parler des faits insolites sur la cabane à sucre?
Ah non, pas cette semaine, JF. Bon. Le thème de cette semaine m'interpelle de façon différente. Donc, je me suis toujours trouvée un peu bizarre avec des émotions mitigées, longtemps non assumées par rapport à tout ça. Je vous en dis plus tantôt.
Bon, j'ai entendu ça. Une chronique d'humeur, c'est ça. Merci, Janelle. Geneviève, le temps des sucres, c'est comme la sève là, qui coule dans nos veines, prête à exploser dans la venue du printemps. Mais cette année, ben, il va falloir se restreindre. On ne pourra pas aller à cabane à sucre, mais les acériculteurs ont trouvé une solution et tu vas nous en parler.
effectivement, Jean-François, c'est sûr qu'il y a quelques zones oranges où est-ce que les cabanes vont possiblement pouvoir être ouvertes, mais ils n'étaient pas vraiment prévus, alors ils ne sont pas organisés pour ça. Alors oui, on va parler des solutions possibles.
Bon, j'ai bien hâte d'entendre ça. Juan, pour ta part, tu vas nous parler de l'histoire, mais Juan, cette semaine, je me suis posé cette question-là. Comment faisaient nos aïeuls, eux qui étaient si pieux, pour aller à cabane à sucre, puis ben, c'est en même temps que le carême, cette histoire-là, hein?
Ben, c'est une très, très bonne question, mais effectivement, c'est en même temps que le carême, donc vous allez voir que les raisons sont un peu similaires, d'ailleurs. Donc, l'histoire a vraiment le tour de rendre les choses intéressantes, Jean-François, quel que soit le sujet. Donc, ben, la cabane à sucre et le sirop d'érable ne font pas exception.
Bon, ben, j'ai hâte d'entendre ça.
Je vous raconte ça tantôt.
Pour moi, cette semaine, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu pour vous. L'incroyable érable, recette de Philippe Mollet et de 11 chefs québécois pour cuisiner l'érable au fil des saisons. C'est 60 recettes, mais c'est bien plus que les recettes. Je ne vais juste pas vous parler de recettes réellement. Ben oui, un peu. Mais Philippe Mollet nous amène à explorer le monde de la sériculture. Un très, très, très beau livre. Et je vais vous parler de ces petites découvertes que j'ai faites cette semaine. Alors, ça démarre. Les acolytes, le rideau s'ouvre sous le thème de la cabane à sucre.
En caravane, allons à la cabane, oh et oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop, pour goûter au sirop d'érable, pour goûter au sirop d'érable.
Christine!
On l'a chanté, cette chanson-là. Hein?
Et on reconnaît la voix un peu, c'est pour ceux qui le connaissent, là, j'imagine.
Ah oui, André Lejeune. André Lejeune. Saviez-vous les paroles et musiques de cette chanson ont été écrites par Charles-Émile Gadebois? C'est un prêtre catholique du début du siècle, en fait, qui est décédé. Mais c'est lui qui a créé deux choses très importantes. Dans un premier temps, la radio CJMS, qui a transféré avec CKAC, et aussi le recueil de chansons La Bonne Chanson. Il y a même une fondation à son nom.
Ah oui!
Christine, cette semaine, j'ai fouiné dans tes affaires, puis j'ai regardé un peu qu'est-ce que tu allais nous préparer. Puis j'ai lu les paroles de cette chanson-là, puis je ne sais pas si c'est mes oreilles grivoises. Mais venant d'un curé, je pense que oui, c'est mes oreilles grivoises. Mais hein? À un moment donné, il dit « Pour lécher la palette, Jeanne accourt sans retard pendant que font trempette Baptiste et Léonard. » Fait que pour moi, je sais
pas. Prendre nom. Premier degré.
Premier degré.
Ben oui, il parle de tir.
Merci beaucoup, Christine. On revient plus tard à toi dans l'émission avec d'autres musiques et chansons. Vous nous écoutez et vous nous aimez. Le meilleur moyen pour nous soutenir, c'est d'aimer notre page Facebook. Vous pouvez aimer la vôtre aussi, mais aimez la nôtre. Facebook.com/ le cabaret des acolytes. Finalement, le balado est rendu possible et on les remercie à chaque balado. Grâce à Balado Québec, on les remercie. Le cabaret est disponible chez eux, mais également sur Spotify, Apple, Google et la plupart des plateformes de commerce. Pas ça partout, pas de plateforme de commerce. Ça, c'est mon métier qui transcende mes paroles. C'est des plateformes de podcast, voilà. Alors, on poursuit ce cabaret sous le thème de la cabane à sucre et je me tourne en premier vers Geneviève. Comme je le disais en ouverture d'émission, pandémie oblige, les cabanes à sucre seront fermées au public cette semaine, mais les acériculteurs ont trouvé un bon moyen pour qu'on profite du bon temps des sucres.
Absolument. Pourquoi pas faire la cabane à la maison cette année? Une initiative de Stéphanie Lorrain. Dans le fond, c'est en association avec Métro, il y a aussi You Eat, et c'est offert à la grandeur de la province. Ça nous permet réellement de commander ce qu'on veut en visitant un seul site web qui est justement macabanealamaison.com, puis ça regroupe 70 cabanes à sucre, en fait. Puis, super convivial, un très, très beau site. Il suffit de mettre votre adresse. Les cabanes à sucre les plus près vont apparaître. On peut passer aussi chercher sa commande directement là-bas si on a envie de faire un tour de machine, comme okay. On dit. Donc, il n'y a pas de problème. Ou encore, comme je mentionnais un petit peu, on peut faire la cueillette dans une épicerie métro. Alors, c'est vraiment beaucoup grâce à métro qui soutient nos agriculteurs. Donc, c'est ça, les cabanes à sucre. Alors, voilà. Donc, mais là, les acolytes, justement, là, si je vous disais un repas de cabane là, que vous mangez à la maison, c'est quoi vos attentes face à ça? C'est quoi pour vous un des éléments de cabane à sucre?
Hey, moi, s'il n'y a pas d'oreille de Chris, là.
Ben moi, j'aime beaucoup les faits volants.
Ouais, les faits volants.
C'est pas nécessairement à la cabane, mais.
Ben oui, les faits volants.
Oui, il y en a à la cabane
oui,
à sucre.
Oui.
La soupe au
oui,
pois.
Traditionnelle.
Ben, la soupe au pois, je ne tiens pas tant que ça, mais bon. Les bines.
La soupe au pois, des omelettes, du jambon, des pâtes de sœur.
Le bon verre de lait, là.
Le sirop d'érable.
Oui, évidemment. Le verre de lait qui rend ça plus neutre, hein, qui est comme. On repart.
Oui, on repart pour une autre bouchée.
Ah oui, c'est ça. C'est tous des éléments quand même très intéressants. Je vous dirais que moi, comme j'ai consulté évidemment le site, mon choix s'est arrêté sur un menu gastronomique de cabane à sucre. Et ça vient de la cabane à pommes, à l'érable, la bonté de la pomme.
Ah bon, quand même, hein?
Donc, ils fument eux-mêmes leur jambon et leurs saucisses avec du bois de...
D'érable.
De pommier. Il y avait le mot pomme plusieurs fois.
On t'en a passé à côté.
On
avait
assez.
Deux choix ici.
La grenade.
Donc, c'est ça. Fait qu'ils fument eux-mêmes tout ça. Ils incluent un mortel sucré-salé. C'est un étagé campagnard au gratin au cas.
Oh.
Une touche de pomme d'érable entre deux gaufres.
Ça, tu peux tout avoir ça dans ta boîte à lunch?
Oh my God.
Oui, c'est ça. Oh. Puis c'est ça, ce que j'ai trouvé de plus insolite et un petit peu plus funky, c'est à la cabane L'Amalgame qui offre ça. C'est des chips de jambon. Pas pire, quand
ça
même.
Ça doit être bon, ça.
Oh, ça doit être bon.
Oui, ça doit être bon.
Ça doit être bon.
Ah, Christine a fait une face, t'aimes pas?
Oh non, au contraire.
Ah, OK.
N'importe quel chips.
On s'entend bien, Christine, pour ça, vraiment. mais vous en faites pas, hein. Si jamais vous mangez pas de viande, il y a certaines cabanes, justement, toujours l'Amalgame, elle offre du végé rablien.
Oh,
ils ont fait un jeu de mots.
Oh boy!
Donc, on peut retrouver entre autres un sauté de tofu au thym à l'érable, un potage de tabaga à l'érable, des grands-pères dans le sirop, et voilà.
Ah bon?
Donc,
ça a de l'air bon. Ça
met le goût à la belle diversité, hein?
Oui, c'est ça. En tout cas, pour finir, là, que vous optiez pour une boîte menu pour 2, 4, 6 ou 8 personnes, toutes les boîtes donnent l'accès à un spectacle virtuel gratuitement qui est d'une valeur de 25 $ par personne, normalement. Oh. Puis ça met en vedette Daniel Boucher, les deux frères Yves Lambert et Guylaine Tanguay. Alors, bien sûr qu'on a vraiment l'ambiance à la maison de la cabane. Et vous verrez, même en visitant ce site web-là, ils vont même vous dire un peu quoi faire. Donc, sortez vos chemises à carreaux et le party va pogner.
Mais Jen, c'est quoi l'adresse? J'ai manqué le... Est-ce
oui,
que tu...
je peux la redonner, puis je vais aussi on va la mettre sur notre sur les plateformes. Là. Alors, c'est macabanealamaison.com.
Macabanealamaison.com. Ah bon, on ira faire un petit tour.
On va faire un petit tour.
Très beau site.
Oui. Alors, on poursuit ce cabaret en musique avec Christine. Son prochain choix.
La terre sous la neige blanche a dormi pendant de longs mois. La sève monte dans les branches, un frisson réveille les bois. Dans les érablières sont allés tous nos gens. Les joyeuses clairières retentissent de leurs chants. Voici qu'arrive le printemps, en caravane allons à la cabane.
Ah, tu l'as aimé celle-là, pour la mettre deux fois.
Oui, je l'ai aimé. Je vous ai remis un autre petit bout, c'est encore André Lejeune. Mais pour vous parler du sirop d'érable, rapidement, en fait. Là. Donc, au printemps arrive le sirop d'érable. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs types de sirop d'érable? Tout dépendant, il y a plusieurs classes de sirop d'érable, en fait. Alors,
Oui.
Ben, le blond, le l'ambré, là, ou...
Ambré, oui, moi, j'ai beaucoup ambré en tête, même si il y en a un autre plus foncé encore.
Ambré, depuis 2017, en fait, c'est uniforme en Amérique du Nord. Il y a 4 sortes de sirop d'érable. Il y a le doré, le ambré, le foncé et le très foncé.
Oh bon,
donc, les classes se distinguent par la transmission de la lumière. Donc, c'est mesuré à l'aide, voilà, là, c'est mon côté scientifique qui parle, là. C'est à l'aide d'un spectrophotomètre. Qu'est-ce que c'est qu'un spectrophotomètre?
Je ne sais pas.
Ça mesure les spectres dans le photomètre?
Ça me fait penser à Ghostbuster, moi, en tout cas.
Il permet de mesurer la transmission de la lumière à travers le sirop. Donc, plus le sirop est clair, plus il est, on dit qu'il est doré, et plus il est foncé, très foncé. Donc,
on va dire qu'on t'a compris. Christine, j'ai dans le livre dont je vais vous parler tout à l'heure, Philippe Mollet disait que un bon sirop d'érable, c'est le sirop d'érable que vous aimez. Il y a pas de, c'est pas par rapport à la couleur, par rapport au.
Y a-t-il plus de sucre ou moins de sucre, dépendamment de la couleur ou?
Au niveau du sucre, il n'y a pas de différence. C'est au niveau vraiment de la délicatesse du goût. Donc, au début de la saison, on retrouve le sirop doré. Et plus on avance en saison, plus c'est le sirop foncé. Donc, voilà, ça prend 40 litres d'eau d'érable pour faire un litre de sirop d'érable.
Wow! Oh.
Énorme.
Hein? Aïe, 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 caramba! Quel travail colossal! Ça prend de la patience!
Caramba, t'es dans le thème, hein, Geneviève? Caramba!
Au bout, c'est les cabanes mexicaines!
On poursuit ce cabaret en musique, allez!
C'est à la cabane à sucre qu'à la motte par chez nous. C'est à la cabane à sucre qu'on a fait un rendez-vous.
C'est à la cabane à sucre qu'on a fait un rendez-vous.
Qu'on a fait un rendez-vous.
Merci beaucoup, Christine. Qu'est-ce qu'on écoutait?
On écoutait Oscar Tifo, La cabane à sucre. Ça aussi, c'est pas jeune, hein?
Oui, ça fait penser. On a écouté La Bolduc, le film La Bolduc cette semaine. Ça semblait, ça avait des connotations.
Oui, effectivement.
Alors, on poursuit ce cabaret des acolytes sous le thème de la cabane à sucre. Et c'est au tour de notre architecte de l'histoire, Juanito. Juanito, le sirop d'érable, dans le fond, c'est à base d'eau d'érable. Donc, la sève qui monte dans les érables après le dégel qu'on vient de récolter, puis cuire à différents degrés. J'ai comme cette petite impression que ce ne sont pas nos ancêtres européens qui ont découvert ce processus. Est-ce que je me trompe?
Alors, merci d'abord, Jean-François, pour l'explication. Puis, effectivement, ce ne sont pas les ancêtres européens qui sont arrivés avec l'eau d'érable. C'est bien nos amis, les Premières Nations, qui maîtrisaient déjà le processus avant même que quelques conquistadors viennent...
Toi aussi, t'es dans le thème!
Exactement! ne viennent donc en Amérique du Nord. Donc, en fait, après les hivers qu'on connaît, c'est là qu'on voit un petit peu le lien avec Mardi Gras. Donc, la rudesse de l'hiver, naturellement, les ressources de nourriture s'amenuisaient chez les Amérindiens. Et ils ont donc commencé à couper l'écorce de certains arbres qu'ils savaient comestibles. Et ils ont remarqué que le goût était sucré. Ah. Et du coup, ils ont commencé à entailler à la hache des érables pour en sortir la fameuse eau d'érable qu'on connaît aujourd'hui.
Ah,
donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé. La même chose que Mardi Gras, dans le fond, il mourait de faim, fait qu'il fallait qu'il trouve une solution, entre guillemets. Donc ils améliorent le processus, ils y glissent notamment un élément de bois taillé sur le dessus, donc un peu comme des gouttières, nos gouttières qu'on a aujourd'hui, donc pour guider la sève vers des pots en écorce d'arbre ou encore en terre cuite. Pendant la nuit, les pots gelaient en fait à l'époque et l'eau restait au-dessus et le sucre se retrouvait en bas du pot et de là ils ont découvert le sucre d'érable. Ça c'était déjà fait au moment où les Européens sont arrivés, hein.
Ah oui, ok. Donc on a volé la recette.
Tout à fait. Je vais même te donner
c'est pas la seule chose qu'on a volée
de la personne qui a volé le procédé. Donc certains peuples des Premières Nations ont donc commencé à cuire certains gibiers avec de l'eau d'érable et là ça leur donnait une espèce de sauce d'érable un peu pâteuse, pas encore du sirop d'érable comme on le connaît aujourd'hui, mais un ancêtre qui avec le temps en fait s'est raffiné pour donner aujourd'hui le sirop d'érable. Donc ils ont compris qu'en cuisant ils arrivaient à avoir
ça faisait un caramel
exactement. Arrivent alors les Français au milieu du 16e siècle. On attend un autre petit siècle pour que ces derniers, en 1676, donc au 17e siècle, avec leur maîtrise du fer en Europe, remplacent les pots des Premières Nations par des chaudrons en fer qu'on peut ensuite prendre pour cuire, en fait. on tire donc le sucre rouge qu'on essaye de raffiner parce qu'on est européen, on vient d'Europe, le sucre est blanc normalement, comme on le fait avec le sucre de canne, mais ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à lui enlever sa teinte brunâtre en fait.
Ah oui, ok. Il voulait le blanchir, l'objectif.
Il voulait le blanchir, ouais, pouvoir le vendre et plus facilement. Et ils ont pas réussi. Donc, au XVIIe siècle, l'eau d'érable, elle devient un produit important parce que la Nouvelle-France est constamment sous les attaques de l'Angleterre avec les naufrages des bateaux qui sont supposés devenir approvisionnés depuis la France. Les produits locaux en Nouvelle-France devaient suffire à la subsistance des habitants. Et de là, le sucre rouge est devenu une denrée très importante à l'époque, parce que c'est devenu à un moment donné le seul sucre qu'il y avait en Nouvelle-France. Il faut quand même attendre le 18e siècle, donc encore un autre 100 ans, avant qu'une certaine Agathe de Repentigny, donc c'est elle la coupable, qui s'approprie le processus de production du sucre d'érable et qui le commercialise à l'échelle du Québec tout en n'oubliant pas d'envoyer quelques confiseries à base de sucre au roi de France, à l'époque Louis XIV, qui, selon les légendes, s'en serait délecté. Donc, grâce à Madame de Repentigny, quand même, le sucre d'érable est peu à peu remplacé tous les autres sucres dans les garde-manger des habitants de la Nouvelle-France. Ah ben. Donc, elle a quand même des mérites, cette madame-là. Au 19e siècle, on arrive ensuite avec un lot d'amélioration du processus. Donc, on commence à utiliser un vilebrequin. Donc, le vilebrequin, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la manivelle. Okay. Vous savez qu'on peut se servir... c'est une manivelle pour...
Pour percer.
C'est ça, c'est l'ancêtre de la perceuse.
C'est Fardoche qui nous a montré c'était quoi un vilebrequin.
Définitivement.
C'est des belles références.
Moi, je n'ai pas connu Fardoche en Europe. C'est pour ça que je précisais. Là, mais...
Donc, non, j'ai jamais vu d'autres.
Donc, au 19e siècle, on voit également l'apparition des chalumeaux en bois. Donc, essentiellement, imaginez une branche taillée d'environ un pouce de circonférence et percée d'un trou dans le milieu, sur toute la longueur du cylindre, permettant de guider la sève de façon plus performante. Là encore, les chaudières ou les chaudières ou les seaux pour nos amis européens qui nous écoutent, qui servaient à récolter l'eau d'érable s'améliorent, leurs matériaux changent, la fabrication change et leur efficacité dans la récolte de l'eau d'érable s'accroît. Au milieu du 18e siècle, on voit l'apparition des premières cabanes à sucre, en sorte que...
Du 18e ou du 19e? Du 19e.
Au milieu du 19e, excuse-moi, aux alentours de 1850.
OK.
Donc, on voit l'apparition des premières cabanes à sucre. Donc, c'est des sortes de résidences secondaires qui sont bâties spécialement pour faire les sucres. Donc, à la fin de l'hiver, les gens y vont à la fin de l'hiver. Et là, ils partagent un repas à base de sirop d'érable. Et 18 ans plus tard, donc en 1868, on va retrouver les premières parties de sucre d'érable qui sont organisées. On arrive au 20e siècle. En fait, l'histoire est quand même assez longue, mais je vais résumer un petit peu. Au début du 20e siècle, on avait des sertisseuses qui ont fait l'apparition dans les ménages québécois. Donc, les sertisseuses, c'était pour faire des cannes de conserve, c'est ça. Et c'est la seule façon qu'on a trouvé de conserver le sirop d'érable. En 1932, on voit l'apparition du beurre d'érable avec une cuisson à 112 degrés. 1951, le design unique pour les cannes de sirop d'érable est mis en place.
Tu savais que j'ai lu cette semaine dans... je ne me souviens pas de la référence. Que ça, c'était issu d'un concours du ministère de l'Agriculture qui voulait décorer de les cannes de conserve.
Ouais, j'ai lu ça aussi.
Ah oui.
Et puis, c'est quasiment un emblème québécois, hein, ces cannes-là. C'est...
Oui, parce qu'il n'a pas changé depuis 1951, en fait. Mm-hmm. Donc, depuis, on est rentré dans l'ère moderne. Je ne sais pas si vous avez visité des installations de cabanes à sucre dernièrement, mais on n'a plus du tout de chalumeaux dans les arbres, à part dans les vieilles cabanes à sucre. Il y en a encore quelques-uns pour le folklore. Mais en fait, c'est vraiment des réseaux de tuyaux qui permettent d'acheminer l'eau d'érable vers des évaporateurs complètement informatisés qui permettent de produire du sirop d'excellente qualité avec une cuisson constante et d'en sortir donc différentes moutures et différents produits selon le degré et le temps de cuisson de l'eau d'érable. Donc, on a du beurre d'érable, du sirop, bien entendu, ou encore de la tire sur la neige. Alors, pour nos amis européens, encore une fois, la tire sur la neige, c'est du sirop d'érable qu'on a chauffé un peu plus longtemps pour que ça devienne un peu plus consistant, donc une consistance un peu plus ferme. Et puis, on le verse chaud sur de la neige et on vient l'enrouler autour d'un bâtonnet pour s'en faire un bonbon qu'on va pouvoir susurrer pendant un certain temps.
Il y en a dans les boîtes, entre autres, là, de cabane à sucre, là, avec même la cuillère de bois.
Ah, c'est cool.
Ah oui, oui.
Vraiment cool.
Mais c'est pas très compliqué à faire parce que tu as juste à chauffer ton sirop d'érable à 115 degrés, je pense.
Oh wow.
Et tu la mets sur la neige. C'est tout.
Une neige propre.
Non, en tout cas, on est rendu loin des Amérindiens qui entaillaient les arbres à la hachette.
Ouais. Merci beaucoup, Juan, pour cette chronique.
Bienvenue.
Wow!
Faut que vous allez écouter cette toune-là. C'est quoi?
Incroyable!
C'est intense!
C'est le Miller High Ice Cream Band. Ça défrise, hein? Ça faisait longtemps
c'est bon.
Très bon.
Ça ressemble un petit peu aux trois accords, hein, le son.
Oui, quand même. C'est un petit peu plus métallisé, peut-être.
Peut-être un peu, oui.
Juan, t'en as parlé un peu, là. Il y a plusieurs produits du sirop d'érable. Là. Moi, je suis une grande fan de sirop d'érable. J'en mets partout, là, en fait. Tu as parlé du beurre d'érable, tu as parlé de la tire d'érable, il y a des flocons d'érable, il y a du sucre, il y a vraiment plein de choses qu'on peut prendre, du sucre à râper aussi, je sais pas si vous avez déjà, moi quand je vais à la cabane à sucre, je vais toujours à la petite boutique voir quels sont les petits produits, je me raffole toujours, je me rigole. C'est ça, je vais le dire comme il faut. Fait qu'on va le
tu te régales, tu te raffoles. C'est parce qu'il y avait une combinaison des deux.
Tu te régales. Comment t'as dit tu te régales? C'est bon, ça, tu te régales.
Tu te raffoles puis tu te régales, right?
Tu te régales.
Merci, Christine.
De la soupe au foie, des omelettes et du jambon, des tranches d'ananas, de la tarte, des crêpes maison, mais faut pas manger trop. Il reste des grands verres dans le sirop, faut se lever de sa chaise.
Christine, est-ce que c'était Annie Brocoli, ça?
Hey, ça ressemblait à Abeille Beau Soleil.
Oh, Abeille Beau Soleil, d'accord. On poursuit ce cabaret des acolytes avec Janelle. Je me tourne vers toi, Janelle. En entrée d'émission, tu nous as dit que tu étais interpellée différemment par le thème de cette semaine. Explique-nous ça.
Bon. Moi, j'aime pas la cabane à sucre, guys. Ça y est, je l'ai dit.
Voyons donc.
Mais oui, je sais. Lancez-moi pas des tomates, là,
Janelle, t'étais parfaite avant. Non, c'est pas vrai.
mais Janelle, je pense pas que c'est légal au Québec de ne pas aimer la cabane à sucre.
Mais je sais. Faut croire que oui. J'ai jamais été une fan de cabane à sucre depuis que je suis toute jeune. Bon, à vrai dire, je trouve rien d'attirant d'aller manger de la nourriture qui dégouline de la graisse tassée les uns sur les autres dans une ambiance bruyante, stressante, un peu en mode rapido là, pour avaler mes beans que j'aime même pas d'ailleurs, et mes omelettes qui sont un peu souvent trop fades à mon goût. La jeune serveuse qui est très gentille, mais qui a une chemise carottée, son tablier d'antan, qui vient à notre tableau 7 minutes pour retirer les assiettes à moitié vides, pour remettre une portion de patates puis d'oreilles de Chris, qui me demande si je veux des saucisses en sirop. J'ai même pas fini ma tranche de jambon.
Tellement du vécu.
Je tiens pas non plus à me promener dans la boîte, salir mes belles bottes de pluie que j'ai achetées tout dernièrement. Même dans des cabanes plus commerciales, de faire un tour de carriole à 20 personnes où j'ai l'impression que les pauvres chevaux connaissent le chemin par cœur.
Mais ils connaissent par cœur.
Ben oui, c'est ça. Bon, avouez-le, décrit comme ça dans ma perspective, la cabane de sucre, c'est pas super sexy, tu sais. Mais là, ici, là, j'ai même pas mentionné le prix hallucinant du menu agrémenté de crotons maison, puis j'ai fermé les yeux sur le gaspillage de nourriture, mais je veux pas aller là-dedans, OK?
OK.
Loin de moi, là, l'idée de vous décourager tout le monde à aimer les cabanes à sucre, les producteurs traditionnels, comme on parlait avec Juan, écoute, ils travaillent tellement fort pour produire leur gang-pain. Moi, ils ont toute mon admiration. Mais je vous en parle parce que moi, là, c'est moi ici l'énergumène. Là. Je me suis toujours sentie comme ça. Plus jeune, on allait à la cabane à sucre en famille, puis je me souviens, là, j'étais anxieuse, j'aimais pas ça. Fait que quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais changer d'idée. Non, c'était juste pire.
Puis même, est-ce que tu es allée dans des cabanes à sucre un peu moins commerciales ou est-ce qu'il n'y a pas tout ce que tu racontes?
Mais c'est ça. Dans le fond, je sais qu'ils sont pas toutes comme ça, les cabanes à sucre, mais celles que moi, je suis allée, comme j'aime pas ça, c'est pas quelque chose que je me garoche puis je cours à essayer. Puis toutes celles que je suis allée, ils étaient toutes comme ça. Puis là, le pire dans tout ça, je me prépare à vous avouer l'inavouable. J'en ai presque honte, je le sais. J'y peux rien, mais j'ai décidé de m'assumer. Alors voilà, j'aime pas ben le sirop d'érable non plus.
Moi non plus, Janelle, en vérité.
Dis. Écoute, moi, dans une vinaigrette à salade, ça va, là, mais sur mes crêpes, je préfère de loin le fromage suisse, les asperges puis le jambon. Vraiment. Je pensais à tantôt, Christine, tu disais que t'aimais tellement ça. Il y en a qui boivent ça à la cuillère, là, directement dans la conserve.
Moi, je fais ça. À chaque fois que j'ai une recette de sirop d'érable, puis, mettons, ça dit deux cuillères à sucre. Deux cuillères à sucre, puis deux cuillères à sucre dans la bouche.
Écoute, il paraît que ça se fait pas, là, pour une Québécoise. Jen, on n'est pas... On est unique, là, et ça se fait pas pour une Québécoise de pas se sucrer le bec avec du sirop d'érable, au moins une fois par année. Certains diront là, qu'aimer le sirop d'érable, ça fait partie de nos gènes. Ben moi, je dois avoir un défaut de fabrication parce que je me suis jamais délectée de la tire de neige. Là, on est dans les aveux, là, je vais être encore plus transparente. Je le sais. Écoutez, là, la tire d'érable, moi, là, ça me cause le plus grand inconfort. Le plus grand inconfort. Là, vous allez me dire, mon Dieu, j'en ai le calme. Toi,
ben oui,
là,
c'est super bon. Un peu.
Écoute, moi, là, je suis le genre de personne que la crème glacée mal lichée par un enfant à crèmerie, c'est pire que des ongles sur un tableau pour moi. Oh. Alors, mettons, là, que le gros mouton de tire qui coule trop vite, pogné dans les cheveux, dans le cache-cou tout mouillé, limité une sale, ça dégouline sur le manteau, ça devient tout collant, je suis pas capable. Incapable, là, mes enfants peuvent en témoigner, les pauvres. Je vous le dis, c'est un supplice.
As-tu pensé consulter, Janelle?
Écoute, ceci étant avoué, là, j'ai découvert il y a quelques années un compromis quand même. Puis vraiment, j'ai découvert ça sur le tard. Vrai. J'aime ça passer du temps en famille autour d'un repas traditionnel. Là. C'est quand même nos racines, puis c'est vrai que ça fait vibrer ma fibre québécoise. Fait qu'on se fait une cabane à la maison. Fait qu'on met la musique, les moments famille, les chemises carottées qui matchent, tout le kit, le menu. Puis oui, même la tire d'érable à la maison. Mais je me gère avec des débarbouillettes puis des wipes. Mais bon, écoutez, je sais, là, j'ai peut-être pas trouvé chaussures à mon pied. Non, les acolytes, les fans de notre page sur notre page Facebook, je vais vous demander une chose. Si jamais vous avez un coup de cœur là, qui va me faire vivre une autre expérience, qui va me faire changer d'avis, je vais vous demander de me le mettre en commentaire sur Facebook. Puis là, en attendant, d'ici là, ben, je vais vous souhaiter des beaux moments sucrés, mais pas trop collants.
Merci beaucoup, Janelle.
Merci.
Et quand ils arrivent chez nous, ils se prennent une tuque et un canuc, se mettent à chercher des igloos, finissent dans une cabane à sucre. Ils tombent en amour sur le coup avec nos forêts et nos lacs et ils se mettent à parler comme nous. Rien à dire à tabarnak. Et bien saoulés au caribou, à la Molson et au gros gin, ils s'extasient sur nos ragoûts de pâtes de cochon et nos plats de bin, vu qu'on n'a pas de fromage qui pue.
On l'a reconnu, Linda Lemay, Christine.
C'est unique, hein? C'est une fierté.
Je pense que ça doit être la seule fois qu'on peut l'entendre sacrer, mais bon.
Mais la chanson s'appelle Les maudits français, mais si on l'écoute attentivement, la chanson finit quand même très bien et ça démontre tout l'amour qu'on a pour les Français parce qu'elle dit il y a comme un trou dans le Québec. Il y a comme un trou dans le Québec quand partent les maudits français.
Ouais,
c'est beau, hein?
Oui, très beau.
Avec sa poésie, Linda Lemay, elle nous transporte. On a raison d'être fiers de notre sirop d'érable parce que quand même 72% de la production mondiale. Puis là, si vous avez voyagé, assurément que vous avez apporté avec vous une petite cannes de sirop d'érable pour ben offrir oui. en cadeau, ou des gens qui sont venus ailleurs qui vous ont demandé « mais qu'est-ce que je peux rapporter du Québec? » Le sirop d'érable, habituellement, c'est quelque chose qui fait fureur.
Là. Quel beau cadeau d'hôte aussi, hein? Quand je vais aller chez oui. toi, Janelle, la prochaine fois, je t'apporte du sirop d'érable.
En fait, Janelle, t'aimes pas le sucre, c'est cool.
Non, ça m'arrive. J'aime les choses sucrées, mais vraiment, le sirop d'érable, bon.
Mais t'es plus salé.
Pour ma chronique que j'ai lue cette semaine, Incroyable érable, recette de Philippe Mollet et de 11 chefs québécois pour cuisiner l'érable au fil des saisons de Philippe Mollet aux éditions de Mortagne. Selon Philippe Mollet, aujourd'hui, plusieurs chefs considèrent le sirop d'érable comme aussi indispensable à leur cuisine que l'huile d'olive, la crème ou les fines herbes. Dans ce livre, Philippe Mollet nous transmet tout son amour pour l'érable. Il s'entoure de 11 chefs, parmi lesquels Elena, du restaurant Elena, Arnaud Marchand, dont on a parlé dernièrement à l'émission, Marc-André Royal, du restaurant Le Saint-Urbain, et j'en passe, mais Geneviève, il y a une chef que tu apprécies beaucoup, et je le sais, c'est Ethnée de Vienne, cette oui. chasseuse d'épices. Du magasin qu'on va souvent ensemble. Là,
hein? Épices de cru, Philippe de Vienne et Ethnée, ben oui, c'est ça, magnifique.
Alors pour toi, Geneviève, elle te prépare une salade de choux avec des épices qu'elle rajoute, et elle prépare une vinaigrette avec un mélange d'ail, de gingembre, piment coréen, gochujang, et si je le prononce bien, là, c'est une sorte de pâte fermentée coréenne, et bien sûr de sirop d'érable. Donc, juste pour toi, Geneviève.
Wow!
Mais comme je le disais en introduction, ce livre, c'est pas seulement des recettes, c'est un paquet d'informations sur les cabanes à sucre, les érablières, le fameux sirop d'érable. Comme par exemple, saviez-vous qu'on emmagasine le sirop d'érable? Il y a quand même, année après année, une variation dans la production, dépendant de la météo. Et pour pas que ça affecte le prix, parce que si on a une très grosse production, il y aurait l'offre qui augmente et le prix diminuerait. Et pour contrer ça, donc les producteurs et productrices acéricoles du Québec ont mis en place une réserve de sirop d'érable qui permet de pallier à ces aléas. Saviez-vous ça?
Non, je ne savais pas du tout. C'est super intéressant.
Il n'y a pas eu un vol dans ce...
Ah oui, j'allais en parler tout à l'heure. En 2012, il y a eu un vol dans un des entrepôts et la personne, petit à petit, elle volait un baril ou deux ou trois, je ne me souviens pas combien. Puis elle remplaçait, elle vidait le baril, puis elle remplaçait le sirop d'érable par de l'eau.
Oh, le cochon!
Et moi, je pense qu'il faudrait peut-être aller vérifier chez Christine le garde-manger. Là.
mais c'est pas une dizaine de barils qui a volé, c'est près de 10 000 barils qui a volé.
Mon
c'est
Dieu.
Quand même un gros vol.
Mais voyons donc!
J'ai pas un si gros garde-manger.
Alors, pour stocker tout ça, il y a deux entrepôts. Le premier, c'est le plus récent, se trouve à Laurierville, au cœur de la région des Bois-Francs. C'est gros comme 5 terrains de football et il y a près de 100 000 barils qu'on peut y entreposer.
Wow.
C'est la moitié d'une récolte complète en moyenne, là, une récolte complète de toutes les érablières du Québec. Et le second entrepôt est à Saint-Antoine-de-Tilly. Alors, la moitié du livre contient des informations de ce genre-là. Là, c'est vraiment intéressant comme livre. C'est quasiment une bible de l'érable. Et je pense que c'est ce que Philippe Mollet a voulu faire. Je termine ma chronique en faisant un clin d'œil à ma maman et à toutes mes tantes, mais surtout à ma maman parce que je crois que c'est elle qui fait la meilleure canafa. maman, la prochaine fois que tu fais de la canafa, il faut que tu essayes celle de Martin Falardeau. Ça, c'est la canafa à l'érable. Il me semble que ce dessert-là, ça fait honneur au pays, au Québec métissé que nous sommes. Alors, maman, je vais t'envoyer la recette dès que je termine cette émission.
Mais Jean-François, oui. C'est quoi la canafa?
La canafa, c'est un mets. Christine, il y a du fromage là-dedans, il y a de la crème, il y a des...
La semoule de blé.
Il y a des ouais. cheveux d'ange, non?
Des cheveux d'ange.
Ah oh, oui, oui, je vois. Ah oh, oui, délicieux. Merci.
Alors, pour retrouver la recette de canafa et les 59 autres recettes de l'érable, voici le livre « Incroyable érable, recette de Philippe Mollet et de 11 chefs québécois pour cuisiner l'érable au fil des saisons » de Philippe Mollet. Et c'est aux éditions de Mortagne.
On sent le caribou, laisse tomber tabou. On se noie des vapeurs, l'eau des rap qui boue. On est un slave, la feuille à racine. Au Québec, la cuisine, c'est pas juste la poutine. C'est l'endroit de la province, c'est une richesse naturelle. J'en ferai des pipelines de New York à Sorel. J'aurais du sirop partout ces tables.
Je ferais même pousser une sorte de weed à l'érable.
Oh, est-ce que c'est moi qui ai halluciné ou on a entendu Madame Brossard de RBO?
Exact.
Je croirais, mais...
Interprété par Guy Lepage, je l'ai interprété il y a quelques années. Hein. Alors là, je me lance. Là. Alors, c'était la chanson « Tam Dili Dili Dam » de Sébastien Harg.
Oh, tu l'as bien eu, tu l'as bien eu.
C'est tellement beau l'évolution. À travers la chronique, l'évolution des musiques, c'est vraiment... En tout cas, bel job, Christine. Bravo. Ouais.
Merci.
Pour terminer ce cabaret, est-ce que vous avez un dessert préféré autour de la table? Un dessert peut-être avec du sirop d'érable? Janelle, est-ce que tu as...
Ce n'est pas au sirop d'érable. Ce n'est pas au sirop d'érable, mais oui, j'ai un dessert préféré.
De la cabane à sucre?
Non.
Ah, OK. Ben non, mais de la cabane dans le thème, voyons.
Non.
Mais ben, c'est gâteau forêt noire.
Gâteau forêt noire? Gâteau... Non. La forêt, il y a un thème.
C'est les grands-pères dans le sirop ou les pêtes de sœur. Saviez-vous que les pêtes de sœur, c'était un dessert économique et ça venait du fait que, dans le temps, nos grands-mères, avec les restants de tarte, ils ne savaient pas quoi faire avec la pâte, donc ils roulaient cette pâte-là, ils faisaient une spirale et avec du sucre, ils mettaient du sucre n'importe lequel, puis c'est sûr que c'est meilleur avec du sirop d'érable, mais tu peux mettre n'importe quoi, de la cassonade, du sucre, et puis ils faisaient juste chauffer ça avec leur tarte. Et that's it. C'est-tu pas bien? Et savez-vous pourquoi on appelle ça des pêtes de sable?
Non, mais je pense pas.
Parce que c'est très difficile à digérer. Alors, j'espère qu'on vous aura fait voyager sur le thème de la cabane à sucre. C'est déjà la fin de ce cabaret. Si vous nous avez aimé, n'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur les différentes plateformes Apple, Spotify, Google ou autres. Visitez également notre page Facebook, facebook.com, le cabaret des acolytes. Et si vous avez aimé, écoutez ce cabaret jusqu'au bout. Si vous m'entendez actuellement, bien, c'est certainement le cas. Vous nous avez quasiment adopté. Bien, adoptez-nous en allant aimer notre page Facebook. Juan, un petit mot de la fin?
Eh bien oui, en fait, le Québec, c'est le premier producteur au monde de sirop, comme l'a dit Christine plus tôt. Donc, si vous remplacez juste un petit peu de sucre par du sirop d'érable dans votre quotidien, eh bien, vous allez encourager l'économie locale. Je dis de même.
Et Philippe Mollet dit qu'on peut pratiquement dans toutes les recettes substituer le sucre par le sirop d'érable. Ou l'inverse, c'est ça?
Tu vois.
Oui, c'est ça. Exact. Christine, merci de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir André Lejeune et Linda Lemay. Et comme Janelle le disait, là, c'est t'as quand même une très belle évolution dans la musique dans ce cabaret-ci. Hein?
Ben, comme la musique, la cabane à soupe, pour moi, là, ça a un effet rassemblant. Puis j'ai hâte qu'on puisse se retrouver ensemble à manger et aussi danser un petit rigodon. Je ne vous l'ai pas fait, celle-là.
Ah ben non, dans quel rigodon? Ben oui. Alors, Janelle, dans deux semaines, on sait c'est quoi le thème. On espère que tu aimeras davantage le thème du prochain cabaret que celui-ci.
Oui, j'ai hâte à la préparation, mais j'avoue quand même que je me suis bien amusée à vous décrire quand même mon petit sentiment mitigé ici là, et puis peut-être qu'il y en a qui vont se retrouver comme moi dans ce que je dis, puis qu'ils vont s'assumer maintenant eux autres aussi.
Et tu savais, pour donner un indice sur le prochain cabaret, tu savais que le café et le sirop d'érable font très, très bon ménage.
Quel indice, Jean-François. Quelle subtilité.
Tout honnête. Geneviève, toi, un petit mot de la fin.
Ben, un peu comme Janelle, j'aime pas beaucoup le sirop d'érable, mais j'ai un souvenir d'enfance qui est des deux œufs miroirs dans le sirop avec quelques tranches de fromage à côté. C'était pas mauvais, ça, quand même, mais certainement le léger. Le doré.
Et on se souvient de l'adresse macabanealamaison.com. Je vous remercie. Ce balado est une production Fort Talent. On participait à cet épisode Geneviève Proux, Juan Blasco, Janelle Touchette, Christine Gélina. Mon nom est Jean-François Gélina et on se laisse la gang sur cette réflexion. Vous connaissez tous la citation célèbre de Robespierre. Ben, peut-être que vous ne saviez pas que c'était de Robespierre, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Eh bien, un petit comique à ajouter et on se laisse sur cette réflexion. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais il est étonnant de voir combien on peut casser d'œufs sans faire d'omelette. Bonne semaine tout le monde.
Merci.